Manuel Valls se fera tout pour soutenir Bougival. L'ancien ministre des Outre-mer écarté du gouvernement Le Cornu II était l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Au chapitre politique, vous retrouverez également dans ce journal la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Plus de peur que de mal à l'aquarium des Lagons, le personnel s'active pour tout remettre en ordre après la rupture du bassin des Nautiles, sans conséquence heureusement pour ses occupants. En métropole, l'enquête sur le vol des bijoux du Louvre avance. Deux personnes qui s'apprêtaient à quitter la France ont été interpellées et placées en garde à vue. L'examen du budget 2026 à l'Assemblée nationale, le PS met la pression. Ce budget doit intégrer la taxe Zucman, sinon ce sera la censure, martèlent les socialistes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. L'actualité sportive sera développée dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Quelques résultats avant de développer tous les résultats. D'abord de la Formule 1 avec un changement en tête du championnat du monde.
Et tout est encore possible à 4 Grands Prix de la fin de la saison pour le titre mondial en F1. Lando Norris sur McLaren a fait coup double en prenant la première place à Mexico et doublé ainsi son coéquipier Oscar Piastri au classement mondial. Max Verstappen n'est pas loin avec une troisième place aujourd'hui qui lui permet de croire encore à ses chances de rafler la mise.
Ça a aussi changé en tête du championnat de France de Ligue 1 de football.
Le PSG qui a profité du faux pas de l'OM pour retrouver son fauteuil de leader avec un succès à Brest 3-0. Derrière, ça se bouscule sur le podium. Lens passe en deuxième position grâce à sa victoire arrachée contre les Marseillais 2-1. Lyon aussi l'emporte à Strasbourg 2-1 dans les dernières minutes du match pour rester à hauteur du podium.
Et ça change aussi en tête du top 14 de rugby puisque Toulouse a dominé Toulon ce matin et retrouve la première place du classement à égalité de points avec le Stade français. Concernant la actualité en Calédonie, Mickaël Juneski, nous parlerons triathlon avec une visite en ce moment.
Exactement, actualité riche pour les triathlètes. Le président de la Fédération française effectue un déplacement sur le territoire, Cédric Gosse, après les mondiaux de Wollongong. Il est de passage sur le territoire, donc, et il sera notre invité ce midi en compagnie d'Éric Savignac, le président de la Ligue calédonienne de triathlon.
C'est la dernière ligne droite pour les élèves de tous les niveaux qui font leur rentrée en classe ce matin pour la dernière période de cours avant les grandes vacances. Et pour certains élèves, c'est la période des examens de fin d'année qui débute. Cette année, 12 405 élèves ont passé un examen, un chiffre en baisse de 2,2% par rapport à 2024. Certains débutent aujourd'hui, ce sont les 1302 élèves de bac pro et les 822 étudiants en BTS, nous a dit Julien Leray, chef de la division examen au vice-rectorat. Il était ce matin notre invité à 7h30.
C'est assez tôt, c'est traditionnel, hein, les BTS commence toujours les premiers assez tôt. Tous les écrits, hein, à peu près 3000 copies partent en métropole dans autant d'académies qu'on a de spécialités pour y être corrigés. Les bacs pro commencent aussi plus tôt que d'habitude pour les épreuves écrites d'enseignement général ou professionnel. C'est lié au fameux parcours différencié. Aujourd'hui, ce sont des examens sur table, des examens écrits, français, histoire géo, et s'en suivront les épreuves pratiques, orales, les langues, etc., comme d'habitude. J'attire leur attention au bac pro. Les épreuves ont lieu maintenant, mais le baccalauréat les concernant ne se terminera que début décembre, parce qu'à l'issue de leurs 6 semaines de stage ou de formation, il y a une ultime épreuve de PSE, prévention santé environnement, et leur oral de présentation du projet. Ils le savent mieux que moi, toute absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, donc rien ne se joue maintenant, tout se joue début décembre.
Dès ce matin, les étudiants en BTS ont donc planché sur la première épreuve de leur série d'examens, une épreuve de culture générale que certains ont passé au lycée La Pérouse.
Aujourd'hui, on a passé la culture générale et expression. Donc c'est un peu comme du français. En vrai, je m'attendais à plus compliqué. Mais là, ça allait parce que les textes, ils étaient plus faciles, ils étaient plus compréhensibles. Ils étaient faciles à lire et à interpréter. Dans l'ensemble, je trouvais que c'était beaucoup plus facile que le blanc.
Ça va, c'est bien passé. Honnêtement, heureusement, j'ai révisé un peu.
Franchement, ça va, ça s'est bien passé. Le thème de cette année, il était très simple, c'est le repas sous toutes ses formes. Donc franchement, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas ça qui manque, les repas familiaux ou avec les amis. Donc ça va, c'était plutôt simple.
J'ai un peu stressé devant la copie, mais après, c'est pas un secret. S'il faut bien suivre sur les 2 ans, moi, personnellement, j'ai pas spécialement révisé. Ça s'est plutôt bien passé pour moi.
Ça s'est bien passé pour moi, j'ai bien fait. J'espère qu'à la fin, on aura une bonne note.
Voilà donc pour les étudiants BTS qui planchaient ce matin. Les résultats du BTS seront publiés à partir du 4 décembre. Les résultats du bac général seront, eux, proclamés le 10 décembre, tandis que les collégiens seront fixés le 19 décembre sur les résultats du DNB. L'actualité politique pour poursuivre ce journal. Et pour cela, on retrouve d'abord la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Sortez-nous de là. Ça fait des années maintenant, au moins depuis décembre 2021 et le troisième référendum d'autodétermination, que l'on a l'impression d'être dans une sorte de lessiveuse ou dans une roue de hamster qui tourne sans que l'on trouve une issue. et c'est épuisant. Qui trouvera la porte de sortie de l'accord de Nouméa ? Qui arrivera enfin à ouvrir un chemin ? Qui récupérera le fil qui nous permettra de quitter ce labyrinthe ? Parce que cet éternel recommencement est éreintant. On avait cru entrevoir le bout du tunnel avec la signature le 12 juillet de l'accord de Bougival. Mais on a le sentiment aujourd'hui que c'est une nouvelle impasse face à la difficulté de reporter les élections provinciales afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet et sa mise en œuvre. L'UCF LNKS-CCAT, qui depuis l'origine entrave toute solution, est toujours à la manœuvre et elle menace implicitement de nouvelles actions. Et l'État garde lui aussi la même posture. La nouvelle ministre des Outre-mer déclare qu'il n'y aura pas de passage en force. Elle affirme qu'elle ne fera pas sans l'UCF LNKS, qu'elle veut ramener à la table de discussion et elle indique que la négociation est la seule voie possible. Et nous voilà revenus à la case départ. Comme en décembre 2021, quand l'UCF LNKS refusait le maintien de la date de la troisième consultation, qu'il avait validée 6 mois plus tôt. À l'époque, il avait l'alibi du Covid, mais le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'avait pas cédé. Le troisième référendum a eu lieu, et même s'il est convenu de dire que son résultat est contesté par certains, force est de constater qu'il a été validé au niveau national et international. Nous voilà revenus à 2024. Quand le Parlement avait adopté la loi constitutionnelle modifiant le corps électoral, qui a finalement été suspendue parce qu'en réaction, la CCAT avait déclenché des violences insurrectionnelles inédites dont nous n'avons pas fini de payer le prix. Et voilà que l'UCF LNKS-CCAT essaie de réécrire le même scénario. Les dialogues n'ont pas changé. Il parle encore et toujours de passage en force, il déclare une fois encore qu'il refuse toute discussion, il voue Bougival aux gémonies et il affirme qu'il faut l'abandonner. Mais il n'a pas réalisé que la donne a changé. En dépit des apparences, la situation n'est pas la même que celle des années précédentes. Et d'abord parce que l'UCF LNKS-CCAT, ce n'est pas le FLNKS. C'est un mouvement hybride constitué essentiellement de micro-partis non représentatifs agglomérée autour de l'Union calédonienne, elle-même divisée entre radicaux et modérés. Et puis, il leur manque le Palika et l'UPM, menacés désormais d'exclusion. Et autant dire que cette purge affaiblirait encore plus le nouveau FLNKS. La situation a changé parce que l'UNI défend Bougival et revendique sa signature, allant même jusqu'à demander solennellement aux parlementaires français d'adopter la loi organique parce qu'un vote en faveur du report des provinciales serait un signal fort, celui du soutien au compromis, à la responsabilité et à la paix. La situation a changé parce que, face à l'obstruction de LFI, qui soutient le nouveau FLNKS, la majorité présidentielle a usé d'un subterfuge qui a anéanti la manœuvre de la France insoumise. La situation a changé parce que la base indépendantiste en a assez elle aussi, des mobilisations sans lendemain, des engagements jamais tenus, des promesses d'indépendance qui ne sont que des leurres. Confrontés au quotidien aux problèmes économiques et sociaux provoqués par les émeutes de mai 2024, elle a aujourd'hui d'autres préoccupations que de répondre à des mots d'ordre inutiles et éculés. Et même cette base indépendantiste doit commencer à penser qu'un passage en force de l'État, ce ne serait pas plus mal. Pourvu qu'on en sorte.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous pouvez la retrouver sur notre site internet ou la réécouter cet après-midi, juste après le flash de 16h. De son côté, Manuel Valls n'a toujours pas digéré son éviction du gouvernement et il lâche ses coups dans le grand rendez-vous européen CNews Les Échos, dont il était l'invité hier soir pour nous. Interrogé sur son absence du gouvernement Lecornu 2, il se déclare indigné de la décision qui a été prise et il lui a été demandé si son départ met en péril l'accord de Bougival.
Cet accord dit de Bougival, le 12 juillet dernier, il faut toujours le rappeler, est soutenu par l'immense majorité de la population, par beaucoup de forces politiques, dont des forces indépendantistes comme le Palika ou l'UPM, qui sont des signataires des accords de 88 et de 98. Mais il faut évidemment poursuivre la discussion, rentrer dans la négociation, faire en sorte que le FLNKS rentre aussi dans cet accord de Bougival, moyennant évidemment des accords mais qui concernent l'ensemble. Puis le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, au moment de la réforme constitutionnelle, auront un rôle essentiel à jouer. Donc moi je ferai tout, évidemment à ma place et en conseil, pour soutenir ce processus, non seulement parce que je l'ai porté, mais parce qu'il me semble être dominé par l'intérêt général, pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi, évidemment, pour la France.
Manuel Valls estime que l'État doit apporter des réponses adaptées aux territoires ultramarins et qu'il faut sortir de la départementalisation. Concernant la Nouvelle-Calédonie, il indique qu'il suivra la mise en œuvre de l'accord de Bougival.
C'est pour cela que nous avons renoué le débat au début de l'année. Nous avons conclu un accord, celui de Bougival, qui était le premier accord depuis 1998, qui préserve à la fois cette aspiration à la souveraineté et ce lien avec la France. C'est complexe, je le reconnais humblement. Les indépendantistes de l'UNI, qui sont les vieux partis indépendantistes et qui soutiennent les accords de Bougival, veulent garder ce lien avec la France pour des raisons aussi stratégiques, pas seulement économiques et financières. Ils veulent garder ce lien historique, même s'il a été douloureux parfois avec la France, plutôt que de plier sous le joug chinois. Bon, donc, c'est 50-50 là-bas, les deux aspirations. Donc nous n'avons pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre choix que de trouver ce chemin. Et je dois dire, même s'il faut évidemment le parfaire, il faut continuer le débat et la discussion avec le FLNKS, j'étais particulièrement fier de conclure cet accord, de le signer, parce que c'est moi qui l'ai signé au nom du gouvernement, et je suis triste de ne pas pouvoir le mettre en œuvre, mais je suivrai cela. J'ai la passion de la Nouvelle-Calédonie depuis déjà de nombreuses années.
Et dans cette interview de trois quarts d'heure, l'ancien Premier ministre revient également très largement sur la situation politique nationale, avec une critique en règle du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Le président de la République est le principal responsable de la crise que nous connaissons, et notamment de la crise politique, de la crise institutionnelle, de la crise démocratique. Alors bien sûr, cette crise démocratique, elle est plus large, elle est liée à la globalisation, au sentiment que les États et les responsables politiques font preuve d'une forme d'impuissance. Mais dans notre système institutionnel, la clé de voûte de la Ve République, élue au suffrage universel, c'est le président de la République, dont le principal responsable, c'est évidemment Emmanuel Macron, dans deux domaines. D'abord dans le domaine politique, notamment depuis 2022. Pas de campagne présidentielle, il n'a pas écouté le message des Français, il n'a pas tenu compte de la majorité relative issue des élections législatives de 2022. Il n'a pas voulu une coalition avec les Républicains alors que c'était possible. Il a engagé une réforme des retraites particulièrement brutale. C'est comme ça que l'ont ressenti les Français, en niant le rôle notamment des partenaires sociaux. Il a dissous l'Assemblée nationale, décision funeste et incompréhensible. Et progressivement, il a détruit d'une certaine manière la politique, même s'il y a d'autres responsables dans les formations politiques, bien évidemment. Et il est probable que la confusion et le désordre soient la marque de ce quinquennat. Et ce désordre, c'est lui, évidemment, qui l'a provoqué.
Voilà donc pour ces extraits du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, dont Manuel Valls est l'invité. Une émission que vous pourrez entendre dans son intégralité ce soir à 17h45 après le journal sur Radio Rythme Bleu. Nous reviendrons sur l'actualité en métropole un peu plus tard dans ce journal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Pensez-vous qu'à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales sera adoptée définitivement par les deux chambres? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h44, on va marquer une première pause de ce journal avant de s'intéresser à ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est plus de peur que de mal pour les occupants de l'aquarium. Une fuite dans le bac des Nautiles a provoqué une inondation dans la salle des visiteurs samedi. C'est la jointure entre les deux vitres cylindriques qui a cédé, Charlotte Coulson.
Ils n'imaginaient pas une telle immersion dans le monde marin. Les visiteurs de l'aquarium ont été surpris ce samedi lorsque le sol sous leurs pieds est devenu humide. La cause de ce bain surprise, une fuite au niveau du bac des Nautiles. La soudure qui reliait les deux vitres a cédé, provoquant l'inondation des deux tiers de l'aquarium. Comme l'explique le responsable service aquariologie et maintenance de l'aquarium, Sylvain Gauvin.
Il faut savoir que ce genre d'aquarium, en fait, ce sont deux demi-lunes qui sont collées. Ce sont des panneaux de métacrylate donc, qui sont soudés entre eux pour en former qu'un seul. Donc à cette jointure en fait, qui a cédé et qui a donc laissé évacuer donc, les 7000 litres d'eau très rapidement dans le bac. Mais le bac est resté intact. C'est juste une fente en fait, où l'eau a inondé en fait, une très grande partie de l'aquarium. Tous les bacs ont été conçus en usine, par les usines de métacrylate hein, qui fabriquent les bacs. Donc, ils ont été montés il y a à peu près 20 ans sur tous les aquariums. Ils arrivent d'origine depuis l'usine. Quoi. Mais on a quand même inspecté tous les autres bacs et en fait, les autres bacs ne sont pas conçus de la même façon. Les autres bacs sont d'un seul panneau qui sont en fait, encastrés dans des murs. Donc la poussée est différente, elle n'est pas comme sur un tube qui tient par lui-même en fait. Hein. Donc la possibilité qu'un grand bac ne s'ouvre comme ça, c'est quasiment inexistant.
C'est un fait rarissime. Le dernier incident de fuite dans un aquarium connu dans le monde date d'il y a 15 ans. C'était à Dubaï avec un bassin de 10 millions de litres. Chez nous, l'inondation était moins impressionnante, mais tout de même marquante pour les visiteurs. Ils ont tous été rapidement évacués après la fuite. Quant aux animaux qui occupaient le bassin, trois nautiles et des poissons des profondeurs, ils sont tous sains et saufs.
Ils vont très bien, en fait, après avoir évacué et mis en sécurité le client. Donc nos soigneurs se sont bien sûr occupés des animaux, ce qui restait quand même un peu d'eau dans le bac, hein. Et on a pu sortir tous les animaux, dans les nautiles notamment, et les répartir donc dans les bacs de quarantaine, notamment des bacs de géniteurs où on les reproduit. En fait. C'est un animal qui vit dans des eaux à 17 degrés, donc il fallait tout de suite le remettre dans un bac à même température surtout. Comme on a des bacs dédiés en zone technique, il n'y a aucun souci, en fait. Un transfert qui est fait en quelques secondes. Et on a même pu remettre en fait, les nautiles dans un bac de présentation plus petit cette fois-ci, en zone de visite.
Le bassin qui abritait les céphalopodes avait été installé il y a plus de 20 ans. Sa réparation n'est pas envisagée pour l'instant, selon la direction. L'aquarium est aujourd'hui fermé au public. Les équipes s'activent à nettoyer la moquette et à contrôler chaque bassin. Il devrait rouvrir demain ou mercredi à temps pour la soirée Halloween prévue vendredi soir.
En bref, notez la réouverture ce matin de l'agence Société Générale de Païta, agence qui, depuis après les émeutes de 2024, a été agrandie et modernisée. Elle est située dans le centre du village, est ouverte de 7h30 à 11h55 et de 13h à 15h30 sur rendez-vous. Le libre-service bancaire est lui ouvert 7 jours sur 7 de 5h15 à 19h. L'actualité dans la région et la Papouasie-Nouvelle-Guinée compte près de 10 millions d'habitants. C'est le résultat du recensement de la population effectué l'an dernier et confirmé par le Premier ministre James Marape. Une forte hausse qui n'est pas sans conséquence sur les choix que va devoir faire le pays. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
James Marape a rappelé qu'en 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne comptait que 3 millions d'habitants. Il a toutefois observé que, depuis, la croissance de la population a été supérieure à plus de 3% par an, tandis que la croissance annuelle de l'économie, quant à elle, a été inférieure à 3%. Cette situation n'est pas viable et ne peut pas durer, a-t-il dit, car notre population croît plus vite que notre économie. Notre priorité absolue doit donc être de faciliter notre croissance économique, a-t-il estimé. Cette croissance nous permettra de générer les revenus nécessaires au financement des services publics tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h49, une nouvelle pause et dans un instant, ce sera l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Préparez votre cri le plus terrifiant et enfilez le costume le plus diabolique. Le vendredi 31 octobre, la ville du Mont d'Or transforme le parc Paul Bloch à Plume en un royaume d'épouvante horriblement amusant pour petits et grands. Frissons garantis. Au programme, le terrifiant château de l'horreur. Participez au concours de déguisement et ne manquez sous aucun prétexte le zombie show spectaculaire. Et sans oublier, la chasse aux bonbons. Ne ratez pas la soirée d'Halloween 2025 du Mont d'Or. Vendredi 31 octobre, de 16h à 21h, au parc Paul Bloch à Plume. Renseignements au 41 90 90.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et du nouveau dans l'affaire du vol du siècle au Louvre. C'était il y a une semaine, en 7 minutes et en plein jour, plusieurs malfaiteurs ont dérobé des bijoux d'une très très grande valeur. Une semaine plus tard, l'enquête a permis l'interpellation de deux personnes qui ont été placées en garde à vue. Les suspects s'apprêtaient à quitter le territoire français. Comment ont-ils été retrouvés et quel est leur profil? Wilfried de Villers pour Europe 1.
Dans leur fuite, les cambrioleurs ont semé de nombreux indices, de l'ADN, des empreintes sur les objets qu'ils ont abandonnés en fuyant justement les lieux du braquage au Louvre. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de retrouver leurs traces. L'un de ces prélèvements ADN a permis d'identifier l'un des suspects fichés par les services de police pour d'autres cambriolages. Autre élément, les données de vidéosurveillance qui ont permis à la centaine de policiers mobilisés dans cette affaire de retracer le parcours des voleurs dans leur fuite dans Paris et en Île-de-France. Cela faisait déjà plusieurs jour que les deux suspects interpellés hier soir étaient dans le radar des enquêteurs. La tentative de fuite de l'un d'entre eux a précipité les opérations des policiers de la BRB. Ce dernier a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, précisément dans la zone de poste-frontière, après les contrôles de police, alors qu'il tentait d'embarquer pour un vol à destination de l'Algérie. L'autre suspect comptait lui aussi quitter le pays pour le Mali. Il a été arrêté à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, département dont les deux hommes âgés d'une trentaine d'années sont originaires.
Un record d'impopularité pour le président de la République. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis 2017. Seuls 16% des Français se disent satisfaits de son action. Le nouveau Premier ministre bénéficie d'une cote de popularité de 38%, recul de 2 points par rapport au mois dernier. Sébastien Lecornu, dont l'avenir à Matignon reste très précaire. Son avenir qui se joue sur l'examen du budget 2026 qui commence dans quelques jours. Et les socialistes savent qu'ils y jouent un rôle clé. Ils mettent la pression sur le Premier ministre. Ce budget doit intégrer la taxe Zucman, sinon ce sera la censure. Les explications d'Alexandre Chauveau.
L'examen de l'article 3 relatif à la taxation des plus hauts patrimoines devait avoir lieu demain, mais le gouvernement a décalé la discussion. Le temps de poursuivre les négociations entre le PS et le bloc central autour de la taxe Zucman. Olivier Faure en fait une condition sine qua non pour ne pas renverser le gouvernement.
Je pense qu'elle est juste et que c'est la meilleure façon d'éviter ce qu'on appelle l'optimisation fiscale.
Pourtant, le premier secrétaire du PS sait qu'en l'état, l'amendement serait rejeté par l'Assemblée, d'où les tractations pour tenter d'aboutir à une taxe plus consensuel, susceptible d'obtenir une majorité dans l'hémicycle.
Si d'aventure, dans l'hémicycle, nous n'arrivions pas à avancer sur la taxe Zucman, là, nous chercherons des amendements de repli pour malgré tout chercher à imposer.
Olivier Faure, qui ménage le suspense sur les discussions avec Sébastien Lecornu et fixe une date limite au Premier ministre.
Il sait très bien, lui aussi, que notre sujet, c'est de réussir la semaine prochaine. Si nous ne réussissons pas la semaine prochaine, ce sera en réalité terminé.
Un ultimatum lancé au gouvernement qui ne convainc pas vraiment le RN ni LFI, pour qui le PS et le Premier ministre finiront par trouver un accord par peur de la dissolution.
Le couple présidentiel souhaite mettre un terme à une rumeur plus que persistante. Cette rumeur, c'est que Brigitte Macron serait un homme et serait en fait son frère Jean-Michel. Les réseaux sociaux relaient régulièrement cette rumeur et le couple présidentiel a donc décidé de réagir. 10 personnes, 2 femmes et 8 hommes, comparaîtront à partir de la nuit prochaine à Paris, jugés pour cyberharcèlement sexiste. Il faut dire que cette rumeur est persistante et qu'elle a dépassé les frontières de l'Hexagone. Marion Bongrand pour Europe 1.
Tout commence en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron, mais prend réellement forme en 2021 lorsque Natacha Ray, une ex-gilet jaune, publie une pseudo-enquête sur la transidentité de Brigitte Macron. Elle contacte ensuite Amandine Roy, une médium autoproclamée journaliste. Les deux femmes dévoilent leur fausse révélation sur une vidéo YouTube vue plus de 500 000 fois. Mais en 2022, la rumeur se tasse après un procès en diffamation lancé par le couple présidentiel, tandis que Brigitte Macron dément ses accusations publications dans plusieurs grands médias. Et puis, la rumeur repart fin 2023. Xavier Poussard, proche d'Alain Soral, ainsi qu'un publicitaire connu sous le pseudo de Zoé Sagan, exporte la rumeur sur des réseaux complotistes américains bien plus puissants. Début 2024, la podcasteuse trumpiste Candace Owens s'en saisit. Elle consolide la théorie du complot outre-Atlantique en diffusant notamment une série de vidéos intitulée « Devenir Brigitte », nom du livre éponyme publié par Xavier Poussard. La rumeur a pris une telle ampleur que des preuves scientifiques ont dû être présentées afin d'infirmer ces déclarations. Les prévenus français encourent jusqu'à 2 ans de prison.
Marion Bongrand pour Europe 1. Et puis un petit mot de l'actualité à l'étranger pour signaler que Donald Trump a entamé une tournée asiatique. Le président américain fait étape d'abord en Malaisie. Il a également signé un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. 11h56, c'est la fin de ce journal.